Le journal d'Émilie Mumenthaler.
Bonjour. La Banque nationale suisse relève son taux directeur. Elle met fin à près de 8 ans de taux négatif afin de contrer une inflation mondiale galopante. Le taux augmente de 0,75 points de pourcentage. Les matériaux minéraux issus de la démolition pourraient être stockés à l'avenir à la carrière de la Petite Morée à Glovelier. Le district de Delémont manque de décharges pour ce type de déchets. Le dossier sera déposé publiquement cet automne avant une votation populaire à Outzorn. Une première sur la scène planétaire pour Arnaud Tandon. Le cycliste jurassien sera au départ de la course en ligne des mondiaux chez les moins de 23 ans, demain en Australie. Il les aborde dans de bonnes dispositions après une saison réussie. Météo, le soleil reste de la partie cet après-midi. Le mercure va encore monter. Il fera jusqu'à 19 degrés en pleine au meilleur de la journée, 15 à 1000 mètres. C'était prévisible, la Banque nationale suisse a mis fin ce matin à 8 ans de taux négatifs. Elle a relevé de 0,75 points de pourcentage son taux directeur, de moins 0,25 à 0,5%. La BNS entend ainsi contrer l'inflation. Elle n'exclut pas de devoir encore relever ce taux directeur ces prochains mois. Les explications à Berne de notre correspondant Serge Jubin.
C'en est donc fini des taux négatifs qui avaient cours depuis 2015. La Banque nationale l'avait déjà fait passer à moins 0,25% en juin. Elle revient au taux positif à 0,5% dès demain. La Banque nationale laisse entendre que ce n'est peut-être pas fini. Elle veut absolument ramener le taux d'inflation sous les 2%. Pour le moment, elle relève sa prévision de renchérissement à 3% pour cette année, à 2,4% pour 2023 et 1,7% en 2024. La BNS contracte également ses prévisions de croissance. Le PIB ne devrait gagner que 2% cette année. Le taux directeur de la Banque centrale qui remonte, ce sont aussi les taux hypothécaires qui sont à la hausse et par effet de cascade, les loyers. Le conseiller national socialiste John Voix et dirigeant de la SLOCA, Christian Dandres.
Lorsque les taux d'intérêt hypothécaire augmentent, ils vont avoir un impact sur les taux de référence. Ça ne va pas se faire tout de suite, il y aura un décalage parce que le taux est lissé, fort heureusement. On n'a plus les à-coups aussi forts que ce qu'on avait il y a quelques années. Mais évidemment, les locataires, in fine, risquent de devoir aussi payer l'addition. Et ils sont évidemment pris au piège parce que d'une part, l'augmentation des taux d'intérêt hypothécaire et augmentation de loyers, mais l'inflation aussi. Pour les locataires qui auraient conclu des baux avec des clauses d'indexation, ils sont nombreux ces dernières années, il y aura des hausses de loyers sous l'angle de l'inflation.
À retenir aussi des décisions de la Banque nationale de ce matin, elle se dit, je la cite, « disposée au besoin à être active sur le marché des changes et potentiellement affaiblir un franc renforcé par rapport à l'euro, mais entre force du franc et lutte contre l'inflation, le choix de la BNS est clair, c'est lutte contre l'inflation ».
5% de plus sur votre facture au restaurant ou à l'hôtel, c'est ce que des gérants lémaniques ont commencé à pratiquer, comme l'a révélé le Blick cette semaine. Le but est que la clientèle participe aux frais énergétiques des établissements. Certains indiquent clairement cette contribution, séparément ou sur la quittance, d'autres pas. Gastro Suisse valide ce supplément, mais insiste sur la transparence vis-à-vis des clients. La Fédération romande des consommateurs dénonce, elle, une telle pratique. Son responsable conseil, Jean Tchop.
Je pense que c'est problématique parce que si on voulait vraiment de la transparence, il faudrait que les restaurateurs puissent produire à leurs clients leurs factures d'énergie, ce qui est évidemment totalement inenvisageable. Je pense que les consommateurs peuvent s'attendre dans un effort de solidarité à ce qu'on leur annonce que voilà, le chauffage du restaurant a dû être baissé, qu'on mette peut-être des plaids à leur disposition, mais de reporter les charges, sont en tout cas précipitées sur les clients consommateurs, je pense que c'est vraiment malvenu et peu commerçant. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une période qui est difficile pour tout le monde et que s'ils font l'effort d'aller au restaurant, même dans une période où les primes d'assurance maladie augmentent, où leurs factures d'énergie aussi augmentent, où le montant de l'alimentation augmente aussi, ben je pense qu'il faut vraiment éviter de reporter des charges d'énergie sur leurs factures.
Les suites juridiques du drame de Courfeyrac. Le recours du fils de la victime de ce féminicide survenu en 2019 a été jugé irrecevable par le tribunal fédéral. Le jeune homme avait déposé une plainte pour homicide par négligence et omission de prêter secours envers une procureure et un policier. Plainte qui avait été classée avant que le fils ne forme recours devant le TF. Les juges ont constaté qu'il n'était pas légitimé à contester le classement de la procédure. Il ne peut notamment pas se prévaloir de la Convention d'Istanbul qui ne crée pas de droit subjectif pour les particuliers. Une nouvelle solution pourrait voir le jour à Glovelier pour stocker les matériaux minéraux issus de la démolition. Un projet est en cours pour déposer ces matériaux à la carrière de la Petite Morée au-dessus du village. La concrétisation de ces intentions nécessite toutefois l'adaptation du plan spécial. Présenté dans un tout-ménage délivré à la population de Haute-Saône, ce dossier sera déposé publiquement cet automne, alors qu'une votation populaire devrait être organisée au printemps prochain. Explication avec Michel Léonie.
Le district de Lémont manque de décharges pour les matériaux minéraux qui proviennent de la démolition, d'après la planification cantonale. On parle là de résidus de béton, briques, céramique ou encore plâtre ou enrobés bitumineux. Un projet est donc né au sein de l'entreprise L'HASA, projet appuyé par les autorités communales et bourgeoises de Haute-Saône, d'après le tout-ménage. Il prévoit de réserver 30% de la capacité de comblement de la carrière pour ces matériaux, soit environ 190 000 m3. Car si des progrès ont été faits dans leur recyclage et leur valorisation, la solution la plus sûre pour les stocker reste parfois l'élimination en décharge, toujours d'après les autorités. Ces dernières indiquent encore que le site présente toutes les conditions requises d'un point de vue de la protection de l'environnement.
Les autorités précisent encore qu'au terme de l'exploitation du site, le secteur sera restitué à la nature en qualité d'aire forestière. Notons encore que l'extraction de la roche calcaire à la Petite Morée approche aujourd'hui de son terme sur le périmètre autorisé. Un projet d'extension est actuellement à l'étude. Laurent Barotte, honoré par ses pairs. L'enseignant pendulier va recevoir le prix Gaïa de la catégorie artisanat et création, une distinction décernée depuis 1993 par le Musée international de l'horlogerie. Ce sera ce soir à la Chaux-de-Fonds. Le Brun Trutin a été très surpris par cette nouvelle, lui qui n'est plus artisan, mais enseignant en horlogerie au sein de la division technique du CGF, Laurent Barotte.
C'est vraiment un grand moment dans ma carrière. Je suis très honoré et aussi en même temps très étonné d'avoir reçu ce prix parce que je pense que je suis un tout petit peu en dehors des clous, des conditions pour l'obtenir. Mais je crois que le jury a apprécié le fait que je sois transmetteur de gestes et de savoir-faire, ce qui est évidemment fondamentale dans ma carrière d'enseignant en horlogerie.
Vous avez l'impression que le jury du prix Gaïa a vraiment récompensé la formation, la relève?
Oui, alors il y a 2 ans, le savoir-faire horloger a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Peut-être que ça a eu une influence, mais en tout cas j'en suis très heureux pour les écoles comme la nôtre qui enseignent à plein temps. Si on ne travaillait pas à plein temps dans une école, on ne peut pas réaliser des projets aussi ambitieux. En même temps, le savoir-faire horloger, si on ne le transmet pas aux jeunes, on peut estimer qu'il va nous filer entre les pattes.
Des propos recueillis par Nancy Chapuis. Retrouvez un entretien plus large avec Laurent Barotte qui a décroché le prix Gaïa sur notre site rfj.ch. Un match à 3 pour la mairie de Soubé. On prend la direction des Côtes-du-Doubs aujourd'hui dans le cadre de notre série consacrée aux mairies disputées lors des élections communales du 23 octobre. Actuellement déjà membres du conseil, Jacques Tozoni et Stéphane Babé briguent le poste. Ils mènent d'ailleurs une campagne commune. La troisième candidate est Liliane Clévenot, active au sein de la société d'embellissement. Quelles sont leurs envies prioritaires en cas d'élection? Arrivée au village il y a 10 mois seulement, la quadragénaire Stéphanie Babé mise sur la continuité et l'accessibilité de Soubé.
Pouvoir continuer les gros dossiers qui sont déjà en cours, les mener à bien et puis à rester ouverte aux éventuelles idées de la population, de qu'est-ce qui pourrait être amélioré, quelles sont des directions ou des fils rouges sur lesquels on pourrait partir, toujours en restant dans ce que le canton nous impose et dans la limite des lois qui nous gèrent en fait.
Vous parlez de gros dossiers. Si vous devez en sortir un, vous, maire de Soubé, quel serait le dossier prioritaire?
La troisième étape des routes, pour qu'en fait le centre du village et puis toutes les fermes qui sont aux alentours restent accessibles pour tout le monde, que la population en soit ravie, en fin de compte, que tout soit accessible tout le temps.
Vous parlez des routes et de la population. C'est votre priorité pour Soubé, la population? Parce que Soubé, c'est un village aussi très touristique finalement. Quand on parle de routes, il y a beaucoup de touristes qui viennent les occuper.
Oui, c'est juste, il y a beaucoup de touristes. Et puis, on a aussi beaucoup de personnes au sein du village qui sont des personnes d'un âge certain et qui, je pense, vont très volontiers se balader. Il est important pour ces personnes d'avoir un chemin qui soit accessible sans se dire qu'on va marcher dans des cailloux, qu'on risque de se tordre une cheville ou se faire mal.
Pour Jacques Tozoni, retraité actif et membre du conseil d'administration du centre de loisirs des Franches-Montagnes, c'est le réseau d'eau qui mérite une rapide cure de jouvence.
Alors le plus important, c'est le PGA, c'est le règlement des eaux usées et puis l'alimentation des eaux. On doit finir ça. Après, il y a cette interconnexion des eaux pour la ligne incendie depuis le réservoir d'Épicré. C'est deux dossiers très importants qu'on doit finalisé rapidement, suivi après avec le PAL, le plan d'aménagement local.
Tous les dossiers que vous citez là sont des dossiers finalement très importants qui vont occuper toute la prochaine législature. Ils semblent tous, aussi bien l'un que l'autre, très techniques. Il faut vraiment maintenant des compétences techniques de plus en plus pointues pour être maire ou conseiller communal dans un village, même dans une petite commune comme Soubé.
Ah oui, dans une petite commune, il faut avoir certaines compétences techniques. On peut toujours demander conseil auprès de personnes, etc., qui sont peut-être mieux dans le métier que nous, mais il faut avoir une certaine base de connaissances, et puis il ne faut pas avoir peur de s'intéresser, de rechercher, d'aller regarder sur Internet puis les solutions qui existent.
Troisième candidate, Liliane Clévenot, ouvrière agricole de 55 ans, veut que la commune améliore ses relations avec le monde agricole et se montre attractive pour les familles.
La priorité, ça serait d'attirer des jeunes, des couples avec enfants, de redynamiser la population un peu vieillissante du village.
Et comment on fait ça ?
Ah, comment on fait ça ? Il y a plusieurs possibilités. Il y a déjà des appartements qui sont en construction ou en rénovation plutôt, dans la commune, qui pourrait convenir à des jeunes. On a un village où les gosses, ils peuvent aller n'importe où sans trop de danger. Et puis, monter une structure de garde pour les enfants.
Soubé, pour les jeunes, ça peut paraître loin de tout. Comment casser cette image-là ? Parce que c'est vrai que on est quand même un peu loin des Franches-Montagnes, on est loin dans le Clos du Doubs, on est un peu, pas paumé, mais il y a ce côté-là quand même. Hein.
Alors Soubé, c'est vrai que c'est une commune un peu éloignée de tout, mais nous avons quand même des transports publics. Pour les enfants, il y a des bus spéciaux pour les écoles. Et on peut toujours éventuellement faire des structures de bus plus approfondies.
Les trois candidats à la mairie de Soubé, Liliane Clévenot, Jacques Tozoni et Stéphanie Babé, étaient interrogés par Cyprien Lovier. Ils s'affronteront dans les urnes le 23 octobre. Retrouvez-les en photo sur rfj.ch. Et demain, direction Lunier d'Enfreux, où deux candidats briguent le poste de maire de la nouvelle commune fusionnée.
Vous écoutez RFJ, les 12h27.
Sport. Un espoir du cyclisme jurassien va défier la crème mondiale. Arnaud Tendon va disputer demain la course en ligne des moins de 23 ans au championnat du monde de cyclisme en Australie. Le Vadet de 20 ans va vivre ses tout premiers mondiaux après avoir disputé déjà plusieurs championnats d'Europe. Le peloton s'affrontera sur un parcours de 170 km qui se fera en 10 boucles avec une ascension d'environ 1 km au milieu. Satisfait de sa saison qui vient de s'écouler, Arnaud Tendon aborde ses championnats du monde avec envie et une certaine confiance.
Je pense que je suis dans une bonne forme. La saison, pour moi, elle a été réussie. J'ai gagné une étape sur une classe 2. J'ai eu des bons résultats sur certaines courses. Maintenant, je suis en bonne forme. J'ai fini mes études. Ça fait déjà 2 mois où je fais que du vélo, quasi. Ça change beaucoup. Au niveau de la récupération, au niveau de l'entraînement, je pense que je suis dans une bonne forme. Je pense que je vais pouvoir faire quelque chose. Puis après, il faudra voir la tactique de l'équipe. Mais après, notre équipe, on n'est pas les favoris parce qu'on n'est que 4 et des équipes sont beaucoup plus favoris, ils ont plus de coureurs. Puis, du coup, nous, on sera un peu dans un rôle d'outsider. On a un atout, c'est Alexandre Balmer. Il sera plus gardé pour la fin, puis nous, on sera un peu avant. Puis, au cas où il y a un petit groupe qui arrive au sprint, je peux avoir ma chance, je pense.
La course en ligne des moins de 23 heures a lieu ce vendredi à 13h, soit 5h du matin, heure suisse demain matin. Si les championnats du monde de cyclisme se tiennent en Australie jusqu'à dimanche, ils auront lieu en France dans 5 ans. L'Union cycliste internationale l'a annoncé ce matin. Elle a attribué l'organisation des mondiaux 2027 à la Haute-Savoie. La candidature française faisait face à un dossier néerlandais. Merci pour votre écoute et bel après-midi.